une Française en Corée.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec un poète, surtout une poète en provenance de l'Hexagone. Je la dénomme Sophie, bonjour.
Sophie, c'est la sagesse, mais c'est là aussi la poète aujourd'hui, voilà. La poétesse.
Alors bonjour Oumi, bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors on entre dans l'automne et ça s'est drôlement rafraîchi ces derniers jours à Séoul.
Oui, c'est vrai.
Donc cette atmosphère automnale m'a donné envie de vous parler un peu de la poésie coréenne aujourd'hui et qui n'est malheureusement pas très connue.
Effectivement.
Alors pour comprendre la culture d'un pays, ça passe aussi par la connaissance de sa littérature et de la poésie, même si ce n'est pas toujours abordable. Et la Corée et les Coréens ont une sensibilité aiguisée qui, même si elle n'est pas toujours flagrante, est très ancrée dans la culture et dans l'histoire. Alors ainsi, les poètes coréens ont depuis des générations offert à travers leurs écrits, leurs idées, leurs croyances, leurs peurs, leurs souffrances, mais aussi leur vision du monde et des choses.
Que ce soit dans la littérature classique ou dans la poésie, les Coréens ont toujours raconté des histoires en rapport direct avec l'évolution du pays qui a connu bien des transformations et de souffrances.
Voilà, alors en Corée, on exprime depuis toujours l'intériorité et ses sentiments par le biais de chansons ou de poèmes. Et il est possible de remonter jusqu'à la période de Silla et des Trois Royaumes.
Une petite précision, la période de Silla qui a régné sur la péninsule entre 57 avant Jésus-Christ et 935 de notre ère. Et quant aux Trois Royaumes, c'est Silla qui a unifié Goguryeo et Baekje, 12 autres royaumes à cette époque.
Voilà, merci. Et donc les premières œuvres rapportent souvent des croyances de l'époque et puisent leur source autant dans le bouddhisme que dans le taoïsme. Alors le but des chansons est de créer des liens avec le divin, le sacré et le peuple coréen, des liens entre le ciel et la terre, d'où l'importance accordée aux textes poétiques. Alors ces textes sont essentiellement chantés lors de cérémonies religieuses à l'époque pour rendre hommage aux dieux ou à toute autre divinité, mais aussi pour exprimer des valeurs philosophiques et spirituelles ou pour se souvenir de faits historiques et de légendes.
D'ailleurs, à l'époque, les œuvres sont écrites en caractère chinois en raison, bien sûr, de l'absence d'alphabet coréen, le Hangul.
Voilà, et d'où la difficulté aujourd'hui de retranscrire tous ces textes, surtout que le chinois a lui-même évolué. Ensuite, durant la période de Goryeo, la plupart des poèmes sont plutôt longs.
On les appelle Jangga en coréen. Jang, c'est long, ka, les chansons ou bien les chants quelque chose. En fait, c'est plutôt une sorte de chanson puisqu'il y a souvent un refrain qui se répète tout au long du poème.
Voilà, et le Jangga est aussi souvent accompagné de musique. Alors, comme c'est le cas de nombreuses chansons populaires à tradition orale, les jangga sont souvent anonymes et ont été retranscrits qu'à partir du 15e siècle, une fois que le hangul a été inventé. Alors, en plus des formes longues de la période de Goryeo, on voit aussi des formes plus courtes se développer, comme celle du hanshi ou du sonshi. Alors, les hanshi sont des textes confucéens écrits par des poètes éduqués et qui obéissent à de nombreuses règles d'écriture, alors que les sonshi sont d'inspiration bouddhiste et sont écrits par les moines.
On est toujours sous l'influence du caractère chinois. Et Han, c'est le grand pays chinois. Son, à partir de Zen, quelque chose comme ça, méditation.
Et d'où voilà. L'influence bouddhiste.
C'est ça.
Alors ensuite, on passe à la période du début de l'ère de Joseon, qui est marquée par l'invention de l'alphabet coréen, donc par le roi Sejong, et qui sera utilisé dans toute la Corée dès 1446.
Oui, et cette invention va jouer un rôle essentiel dans la société coréenne, et notamment, bien sûr, dans la littérature. Le Hangul va permettre à des personnes issues de toutes les classes sociales, hommes comme femmes, de communiquer et de s'exprimer par écrit.
Voilà, alors ce changement majeur dans la société coréenne va permettre à l'écriture de devenir un moyen d'expression partagé par tous, et cela va se répercuter naturellement sur la littérature. Les auteurs ainsi que les lecteurs deviennent de plus en plus nombreux, apportant un réel boom dans la littérature et la poésie coréenne.
Le Sejong le Grand a véritablement révolutionné la société coréenne. Il a développé dans le même temps l'éducation et le savoir coréen et même les sciences. Les plus pauvres ont pu avoir accès à la culture et ainsi développer leur créativité.
Voilà, alors avec l'arrivée du Hangul, le nouvel alphabet, les formes poétiques qui existaient déjà auparavant, dans les périodes précédentes, ont pu se développer plus largement. En plus de ces formes qui existaient déjà, la période de Joseon est très propice à la poésie puisqu'on y développe le Sijo et le Kasa, des formes dérivées des chansons, donc Janga. Et le Sijo est aujourd'hui encore une des formes poétiques les plus populaires en Corée. Et on peut peut-être la comparer à nos sonnets français.
Sauf il faut bien prononcer Sijo, pas Sijo. Sijo, ça veut dire l'origine ou bien le début. D'accord?
D'accord.
Donc, le Sijo s'inspire des poèmes bouddhiques et on pourrait le traduire par air du temps.
Alors, le Sijo est une forme appréciée par les Coréens car ils pensent qu'il représente la beauté parfaite de la forme poétique. De plus, les auteurs sont issus de toutes les classes de la société sans aucune distinction grâce à l'utilisation du Hangul. La composition d'un Sijo est assez difficile. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais elle peut rappeler la rigueur de l'alexandrin chez nous ou les rimes du sonnet. Mais les auteurs de Sijo s'autorisent tout de même quelques libertés selon leur inspiration. Quant au Kasa, quant à lui, c'est une forme poétique plutôt narrative, au rythme régulier et plutôt simple à mémoriser. Alors, plus qu'un poème, c'est plutôt une chanson qui permet de s'adresser directement à son auditoire, puisqu'elle utilise des formes impératives et exclamatives. Alors ensuite, la poésie moderne débute dans les années 1900 et s'inspire des formes traditionnelles, mais reçoit aussi une influence directe de la poésie étrangère, occidentale notamment. Alors, ces influences nouvelles ont transformé la poésie classique et l'histoire de la Corée elle-même l'a fait évoluer. Aujourd'hui, on parle de poésie contemporaine et le vers libre dans la poésie coréenne va se multiplier et prendre une ampleur considérable. On assiste alors à la naissance de la poésie libre en Corée.
En coréen, ta-yu-si. Ta-yu veut dire, c'est quoi, Xavier?
La liberté.
Très bien.
Alors, avec l'apparition du ta-yu-si, de plus en plus de poètes contemporains sont attirés vers cette forme de poésie dite libre, et ça représente une grande tendance à l'époque. On voit ainsi apparaître des poètes de renom, aujourd'hui connus dans le monde entier comme Yi Sang.
Oui, et puis ensuite quand même, il y a l'entrée des Japonais sur la péninsule coréenne, et ça a dû aussi beaucoup influencer la littérature et la poésie de l'époque.
Voilà, ça a influencé la littérature et la poésie coréenne, car tout est étroitement lié en Corée à l'histoire. Alors, beaucoup de Coréens sont partis à cette époque-là étudier au Japon durant l'occupation et ils ont ainsi eu accès aux premiers journaux et magazines littéraires étrangers qu'il n'y avait pas en Corée, je pense, à l'époque. Et beaucoup d'auteurs s'en sont inspirés. Ensuite, il y a eu les mouvements de résistance face aux Japonais qui ont aussi apporté un type de poésie différente, plutôt idéaliste, et dont le but était de faire passer des messages idéologiques.
Mmh. Très bien, tu es arrivé. Ok. En tout cas, devant l'occupant japonais, les poètes à cette époque ont pu résister comme ça à la colonisation japonaise à travers leurs ouvrages.
Voilà.
Et par exemple, on peut citer les grands noms comme Han Yong-un et Kim So-wal. Mm. Et en apparence, leur poésie est très féminine, vraiment très affectueuse. Mais au fond de ces poèmes cachés, c'est ça. Les azalées.
Voilà.
Et puis ensuite, il y a eu la période de guerre. À ce moment-là, beaucoup d'artistes coréens ont été confrontés à la censure et à la pression du gouvernement japonais.
Alors oui, à l'époque, les poètes ont eu beaucoup de difficultés pour faire paraître leurs œuvres et l'usage du coréen était plutôt malvenu, voire parfois même prohibé. Alors, des poésies écrites en japonais ont été autorisées et publiées dans des magazines, mais il y a toute une autre partie des auteurs coréens qui ont continué d'écrire en coréen, mais sans publier leurs œuvres, celles-ci ne seront publiées et diffusées qu'après la libération. À cette époque, de nombreux auteurs résistants, comme disait Oumi, résistent donc à l'occupation.
Oui.
Et ils sont parfois même emprisonnés par le gouvernement japonais, et leurs écrits témoignent souvent de cette période assez dure de la Corée. Ensuite, avec la guerre civile, donc dans les années 50 plutôt, la poésie coréenne va osciller entre une volonté de retour aux traditions et puis une volonté de modernisme. On voit alors apparaître une poésie plutôt existentialiste, avec l'arrêt de la guerre et la séparation de la Corée. Puis les révolutions étudiantes de 1960 marquent un tournant pour de nombreux jeunes poètes et aussi artistes de tout domaine. Et les poésies se veulent de plus en plus réalistes, avec une volonté de montrer les difficultés des jeunes dans la société.
C'est la période de Minjokji, ou la poésie du peuple.
Voilà. Enfin, avec l'essor économique que la Corée a connu depuis les années 60, une autre forme de poésie, dite moderne, est née, le Hyundaishi.
Hyundaishi, contemporaine.
Voilà, mm-hmm. Avec des auteurs comme Kim Soo-young ou Shin Dong-yeop.
Oui.
Alors, les poètes de ces années 60-70 cherchent à exprimer la situation de malaise qui règne dans la société coréenne. Et ils veulent exposer leurs opinions par rapport au monde moderne, à la Corée qui s'occidentalise, en évoquant de façon réaliste leurs sentiments et leurs impressions.
Moi, je pense que c'est bien, c'est très très bien tout ce que tu dis. Moi, j'aimerais quand même goûter un petit peu à cette poésie coréenne. Peut-être qu'une prochaine fois, ce serait pas mal peut-être de lire des extraits, non ?
Pourquoi pas ? Même à l'approche de la nouvelle programmation, pas cette fois-ci, on va créer une rubrique.
Oui.
Peut-être.
Oui.
Ou peut-être approfondir un peu plus telle ou telle période.
Bien sûr.
C'est vrai qu'en 10 minutes, on ne peut pas
tout dire, tout présenter. Et on a oublié de présenter un des poèmes qui représente la Corée. Il s'agit de Koon. Et cette année, il est âgé de 84 ans. Et depuis le début de l'an 2000, il a été nominé à la liste du prix Nobel de la littérature pour représenter
la Corée,
mais hélas, pas encore, même si maintenant c'est la période de l'annonce des lauréats des prix Nobel dans tous les domaines.
Oui.
On espère que ce nom serait inclus,
voilà,
n'est-ce pas, à la prochaine fois. Ok, sur ce, nous allons fermer notre rubrique poétique.
Voilà.
Et 안녕히 계세요.
Au revoir.
Au revoir, Sophie.